La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots de ce début de semaine, ce qui fait que nous retrouverons dans une vingtaine de minutes la séquence Ma Parole, comme tous les lundis, avec Déborah Gros. Mais auparavant, j'aimerais bien qu'on parle d'Afrique avec Claire Ducournau, qui est universitaire, spécialiste de l'Afrique et en particulier de la littérature et de la presse africaine, à propos d'un colloque qui a eu lieu les 19 et 20 mars dernier à l'université de Montpellier 3 sur le thème presse et littérature africaine, et surtout à propos d'une double exposition consacrée à la revue Awa, qu'on peut voir à Montpellier, à la bibliothèque universitaire de Montpellier 3 jusqu'au 20 avril et à Dakar également jusqu'à la fin du mois d'avril. Bonjour Claire Ducournau.
Bonjour Yvan Amar.
Merci de venir nous parler de Awa, donc cette revue à laquelle une exposition est consacrée, une exposition que vous avez organisée avec votre collègue Ruth Bush qui est britannique. Alors dites-moi un petit peu ce que c'est qu'Awa.
Alors Awa, la revue de la femme noire, c'est un périodique qui est génériquement entre la revue et le magazine, qui a été créé en 1964 à Dakar par Annette Bindernevil et un comité de rédaction exclusivement féminin, et qui est l'un des premiers périodiques entièrement conçu, par et pour des femmes, en fait, en Afrique subsaharienne.
Alors, vous dites que c'est un périodique, que c'était un périodique, puisqu'il a paru de 64 à 73. Quelle en était la périodicité? Il y en avait tous les mois, toutes les semaines ou...
Alors, c'est un mensuel, hein, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un mensuel qui est paru de manière irrégulière, avec une interruption de 6 ans, entre 1966 et 1972. Donc, il y a 19 numéros de ce magazine au total, avec une période qui a été à ses débuts très très mensuel, enfin qui a respecté hein, le contrat,
ouais,
de départ, mais qui s'est interrompu pour des raisons financières. C'était un mensuel qui revendiquait une indépendance politique et économique, hein, d'où aussi ce problème-là à la fin du magazine, comme le formule Annette Bindernevil. Elle a été davantage conçue pour les idées que pour l'argent, d'où des problèmes de rentabilité. C'est un périodique qui était tiré un peu moins de 10 000 exemplaire qui a été amplement lu à cette période-là et qui a été très très important pour la mémoire des engagements féminins, de l'histoire des femmes au Sénégal. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que dans le cadre du projet plus général, donc dans lequel prenait place ce colloque et cette exposition, le magazine a été numérisé et donc disponible sur Internet.
So let's have some fun. Jealousy, rather be chilling with the family happily. Check for me, living on a mountain peak easily. Wanna be cooking with a cousin in Tennessee. Never be lagging cause I'm gonna be simply coming free for the people, that much you know we need. Fallacy, probably, possible, logically, a matter of the battle, we about to. Too low.
La danse des mots autour d'Awa, donc ce magazine féminin qui paraît dans les années 60 jusqu'en 1973 et dont vous nous parlez, Claire Ducournau. Alors, ce magazine, à quoi est-ce qu'il ressemble? Le milieu des années 60, c'est une époque phare pour la presse féminine, en particulier en France. Elle a été plus ou moins importée des États-Unis et c'est les grandes années du magazine Elle, mais derrière on a Marie-Claire, on a Marie-France. Est-ce qu'Awa peut se comparer à cela ou bien est-ce que c'est tout à fait différent?
Bien sûr, Awa a des traits, des caractéristiques hein, qui relèvent de cette presse féminine-là. Annette Baydernerville a vécu en France à la fin des années 40 et au début des années 50. C'est là où elle a rencontré son mari, où elle a eu une formation de journaliste. Hein. Elle a été diplômée en France en tant que journaliste. Elle est la première journaliste diplômée, femme et homme confondus, du Sénégal. Et donc, elle n'a pas manqué d'être en contact avec Marie-Claire, elle, etc. Et bien sûr, la couverture du magazine Awa, avec cette cover girl, ce visage féminin, des photographies qui sont souvent celles d'un photographe qui s'appelle Bye Bye Disso, très très belle, rappelle celle du magazine féminin, avec également ce titre éponyme au nom d'Awa
Alors, renvoie... Alors, dites-nous un petit peu ce que ça veut dire Awa. On a bien vu que toute la presse occidentale met un accent justement sur la féminité de ses publications. Awa, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça renvoie à Ève, en fait, hein, l'étymologie donc de d'Ève. Voilà, hein, donc c'est un élément intéressant aussi, qui n'est pas du tout anodin et pas neutre dans l'identité de ce magazine.
Donc ça se présente de façon relativement luxueuse, c'est du papier glacé, il y a une photo de femme sur la couverture.
Oui, les couvertures sont colorées, contrairement à l'intérieur du magazine qui fait une quarantaine de pages et qui est essentiellement noir et blanc, avec des photos, avec des illustrations, avec des petites bandes dessinées, et puis du texte évidemment, et aussi des articles de fond qui portent sur la sociologie, sur la politique, mais surtout la politique du point de vue des associations féminines en fait qui se mettent en place à ce moment-là. Hein, c'est-à-dire qu'il y a très peu de prise de parti sur le contexte politique sénégalais de cette époque-là. En revanche, il y a des reportages extrêmement minutieux sur les rencontres panafricaines ou mondiales des femmes, en fait, et des associations féminines qui se mettent en place à ce moment-là, qui sont extrêmement, extrêmement actives.
Alors, quelle image de la femme est-ce que véhicule justement ce magazine ? Est-ce que vous avez l'impression que ça a été une publication relativement émancipatrice, ou en tout cas qui représentait une avant-garde à ce moment où on est quand même 3-4 ans après les indépendances ? C'est encore très neuf tout ça.
Oui, alors c'est une question très intéressante et qui est en fait assez complexe dans ce magazine, parce qu'il ne se revendique absolument pas comme féministe. L'étiquette féministe dérange et n'est absolument pas revendiquée par Annette Baydernerville et par les autres femmes de ce comité de rédaction, parce que également le féminisme est assimilé à un courant occidental qui ne correspond pas.
De toute façon, le féminisme, on en parle beaucoup moins dans les années 60. Hein. Si je reprends encore un parallèle avec la presse féminine occidentale de l'époque, elle ne se présente pas comme féministe. Elle a certainement pu faire passer un certain nombre de courants d'idées, mais de façon relativement indirecte. Hein. On n'en est pas encore au petit encart de Marie-Claire, ça c'est les années 70.
Oui, sans doute, il y a effectivement, il faut replacer ces éléments-là dans une chronologie rigoureuse, mais il se trouve que c'est surtout, enfin ce qui explique surtout cette prise de position, c'est aussi un parti pris, on va dire, africain, hein, et c'est parce que sur le plus long terme, on voit également des années 70 et 80 des femmes africaines, je pense à Ken Bougou, je pense à, aux écrits de Mahamaba, etc., qui ne vont pas revendiquer non plus cette étiquette. En fait, ça correspond aussi à quelque chose d'assez profond, qui est le fait que c'est quand même une étiquette qui est conçue comme européenne, occidentale, et donc qui est assimilée à une autre domination que la domination patriarcale, qui est une domination coloniale, néocoloniale derrière. Voilà, il y a aussi cette dimension-là. Mais en revanche, on trouve de l'émancipation, pour remonter à votre question. Awa propose énormément de portraits de femmes. La première femme parachutiste, Aïda Sangaor, qui fait l'une des plus belles couvertures, je trouve, du magazine.
Parachutiste sénégalaise.
Du Sénégal, pardon, excusez-moi.
Oui. Et elle fait la une à un moment.
Oui. Elle fait la une du magazine, tout à fait.
On la voit en parachutiste.
Donc on la voit en costume parachute. De parachutiste. Oui. Et puis on nous détaille toute l'histoire de cette femme, qui est également une secrétaire, parce qu'on a aussi les portraits de secrétaires. Les portraits de femmes politiques extrêmement importantes, hein, comme Jeanne Cissé, qui est extrêmement importante à ce moment-là. Caroline Diop, une femme parlementaire.
On met l'accent justement sur des femmes relativement autonomes et qui travaillent.
Tout à fait. Hein, voilà, il y a des portraits de femmes qui occupent des activités professionnelles qui ne leur étaient pas accessibles une dizaine d'années avant, une vingtaine d'années avant. Il faut bien aussi relever que les femmes qui écrivent dans cette revue sont passées par l'école. Annette Baïderneville est passée par l'école normale supérieure de Rufisque au Sénégal,
oui, qui est extrêmement importante. Parce que la plupart des femmes sénégalaises qui ont commencé vraiment à entrer dans la vie professionnelle, ça a été des institutrices, justement. On a eu quelques institutrices, après il y en a eu de plus en plus. Là, c'est encore le début. Hein.
Oui, et puis surtout, ce sont des institutrices, à l'image d'Annette Baïderneville, qui ne sont pas forcément restées toute leur vie et qui ont parfois eu des parcours professionnels complexes et inattendus, qui se sont étalés dans le temps. Mm-hmm. Donc Annette a été institutrice, a eu son diplôme d'institutrice, mais ensuite est devenue journaliste. Elle a dirigé les programmes de la radio au Sénégal et ça a été une personnalité publique extrêmement importante.
Des mots avec la voix de Fatoumata Diawara, et puis avec vous, Claire Ducournau, et surtout avec Awa, qui est donc cette revue féminine, ce magazine féminin, qui est paru au Sénégal entre 1964 et 1973, et dont, dans l'exposition qui lui est consacrée à Dakar et à Montpellier, on dit que c'est une revue féminine pionnière. L'est-elle beaucoup pionnière, cette revue ? En quoi est-ce qu'elle est pionnière ? En quoi est-ce qu'elle ne l'est pas ?
Elle est pionnière en ce qu'elle donne la parole à des femmes et est-ce qu'elle représente des femmes dans des activités qui leur étaient interdites, en fait, hein, dans les décennies précédentes.
Donc en contexte colonial, vous voulez dire.
En contexte colonial. Et puis, parce qu'elle a une liberté de ton, de parole. Il y a beaucoup d'humour hein, aussi dans Awa. Il y a des petites bandes dessinées, par exemple, qui s'appellent Awa déchaînée et qui stigmatisent hein, le mari polygame, de mauvaise foi, etc. Face à Awa. Les Corim, même Awa.
Ça devient un personnage en fait qui est représentatif de la revue.
Oui, ça devient complètement hein, un personnage qu'on retrouve avec différents rôles en fait hein, dans les colonnes de la revue. Donc voilà, les Corinne Mamawa qui correspond à une sorte d'horoscope. Il y a plusieurs figures hein, plus ou moins émancipées d'Awa, mais les hommes n'en sont pas moins présents dans la revue et la voix des hommes est quand même prise en compte. Hein. C'est-à-dire que il y a des propos libres et des thématiques absolument neuves, extrêmement importantes, mais en même temps, les rédactrices vont prendre en compte les points de vue des hommes, hein, qui vont par exemple juger la rubrique Awa déchaînée comme une sorte de galéjade qui n'aurait pas sa place dans la revue et elle va ensuite disparaître. Et voilà, il y a une parole féminine qui reste mesurée, en fait, hein, et qui donne aussi sa place.
Et qui fait passer un certain nombre d'innovations grâce à la moquerie, grâce au sourire, grâce à l'humour. Ça
exactement,
passe plus facilement
avec
si
beaucoup
c'est
d'esprit aussi, ouais. Et des rubriques qui peuvent sembler légères, mais qui sont en fait nourries par une profondeur aussi. Hein, voilà.
Alors, ça s'adresse à qui ? Quel est le lectorat d'Awa ? Et en particulier, c'est un magazine féminin, on le voit bien. Est-ce que les hommes lisent AWA aussi, soit parce que ça les intéresse, soit parce qu'ils veulent surveiller un petit peu ce que lisent les femmes dans leur dos?
Oui, alors c'est une excellente question. Alors on a une idée du tirage d'AWA, hein, donc un peu moins de 10 000 exemplaires, qui étaient lus très activement au Sénégal, notamment par des femmes qui en ont aujourd'hui dans leur bibliothèque personnelle, mais aussi par les hommes. Et en fait, on peut avoir une idée de ce public, de ce lectorat actif, en lisant la revue, puisqu'il y a une rubrique de courrier de lecteur qui s'appelle la boîte à lettres et qui représente en fait donc un lectorat actif, parmi lequel effectivement des hommes qui n'hésitent pas à donner leur avis. Il y a aussi une rubrique qui s'appelle le billet de monsieur, qui est de toute façon est dévolu à un homme, hein, qui va donner son point de vue, hein, régulièrement.
Alors, puisqu'il y a un courrier des lecteurs, que disent-ils et que disent-elles ces lectrices quand elles écrivent à AWA?
Alors elles félicitent, elles encouragent énormément, elles vont donner leur point de vue, hein, sur les numéros précédents, évidemment. Ce qui est intéressant aussi à travers ce courrier, c'est que il est extrêmement éclaté géographiquement, qu'on a des courriers qui viennent de Russie, qui viennent d'Europe de l'Est, qui viennent d'Israël, qui viennent des États-Unis.
Général de la diaspora africaine de ces pays.
Alors, diaspora africaine, mais pas seulement, aussi par des femmes, en fait, donc russes, américaines, etc., qui sont engagées dans des associations féminines, parce que c'est par le biais de ces associations-là, pardon, de femmes, que le magazine a pu circuler et a pu être connu, en fait. Hein. Donc on a, puis également, il y a d'autres magazines comme Ebony, qui est un magazine afro-américain aux États-Unis, ou des magazines, en fait, féminins, mais qui viennent d'Europe de l'Est, qui vont échanger des magazines, hein, donc c'est les rédactions de ces différents magazines qui communiquent en fait entre elles.
Alors c'est un magazine sénégalais, est-ce qu'il est tout à fait laïque à l'époque? Quelle est sa position par rapport à la religion et en particulier par rapport à l'islam, puisqu'on est au Sénégal?
Alors là encore, il y a une liberté de ton assez intéressante, c'est-à-dire que bien sûr, alors je pense à un reportage sur le pèlerinage à la Mecque, hein, qu'on trouve dans les colonnes d'AWA, et qui va donner la parole à deux Adjaratous qui ont fait le pèlerinage à la Mecque et qui racontent par le
alors,
menu
rappelez-nous, hein, comment ce qu'on appelle une Adjaratou.
Et ben justement une femme, hein, qui a hein, comme on dit El Hadj pour les hommes, puis une
qui a fait le pèlerinage.
Qui a fait le pèlerinage. L'une d'entre elles, d'ailleurs, c'est amusant, c'est Aminata Sofal, qui n'avait pas encore publié de livre, mais qui s'appelle Amifal. Et donc, on a une petite photo d'Aminata Sofal qui raconte de manière assez réaliste et pragmatique, hein, la manière dont elle a organisé son pèlerinage à la Mecque. Et en même temps, dans le même magazine, on a des pages de mode qui représentent, hein, des bouboutes de femmes dans lesquelles on voit les jambes. Hein, donc, il n'y a pas de revendication, par exemple, de porter un costume particulier, mais on a, voilà, il y a une grande ouverture, en fait. Hein,
Est-ce que la revue était chère? Est-ce qu'elle est élitiste d'une certaine façon, ne serait-ce que par son prix? Enfin, qui la lit? À qui elle est destinée?
Alors, son prix, c'est 100 francs CFA ou 150 francs CFA, ça varie un petit peu au fil des années. Évidemment, c'est pas un magazine, ne serait-ce que pour des raisons d'éducation, hein, et le fait que toutes les femmes et tous les hommes du Sénégal à ce moment-là n'étaient pas alphabétisés, donc n'étaient pas en mesure de lire AWA, qui est réservé à une certaine élite, hein, et les lecteurs d'ailleurs le remarquent.
Très urbain, j'imagine.
Très plutôt urbain que rural, mais ce qui est intéressant, c'est que le magazine est justement conscient et préoccupé par cette question-là, et que ce sont des choses qui font l'objet de débats dans les colonnes de la revue, et qu'il va intégrer au fil du temps des reportages sur justement les femmes rurales, avec des photos, avec la prise en compte de ce public-là, et la dimension aussi visuelle en fait du magazine avec ses photos et ses illustrations, qui fait qu'un public même analphabète peut avoir accès au magazine et y prendre de l'intérêt.
Merci beaucoup Claire Ducournau de nous avoir parlé donc d'AWA, auxquelles deux expositions sont consacrées, enfin la même qu'on peut voir à Montpellier jusqu'au 20 avril, à Dakar jusqu'à fin avril, puisque son succès a fait qu'elle a été prolongée. Il est temps dans la danse des mots de retrouver maintenant notre séquence hebdomadaire, Ma Parole.
Ma Parole, ça t'apprendra.
Ma Ma parole, donc, cette séquence qui s'intéresse à l'apprentissage du français comme langue étrangère, à l'enseignement de cette même langue, et qui essaye de donner un certain nombre d'éclairages sur la façon dont on peut utiliser justement la radio pour apprendre ou pour enseigner le français. Alors, Déborah Gros, vous appartenez au service langue française qui s'occupe de tout ça. Vous travaillez aussi pour ce site RFI Savoir. De quoi est-ce qu'aujourd'hui vous nous parlez ?
Bonjour Yvan. Aujourd'hui, il est question de reportage, puisqu'on avait vu déjà dans notre collection qui s'appelle l'Atelier Radio, la chronique, l'interview, le micro-trottoir, la carte postale sonore. Et donc cette fois, pour ce dernier chapitre, c'est Zoom sur le reportage.
Ce matin, sur l'avenue des Trois Fronts à Bakongo, la circulation est très intense.
Quel que soit l'angle de vue, le panorama est sublime. Le Colisée au loin, sur la droite...
À quelques kilomètres d'Avranches, ces jours de marché à Saint-Poix, commune de 500 habitants...
Reportage. Aller sur le terrain. Collecter des témoignages et des ambiances sonores.
Qui a lieu tous les jours dans la ville.
Laurence Benedetti, médecin nutritionniste, explique le rôle du microbiote intestinal.
Décrire le monde qui nous entoure.
Susanna rentre juste du travail.
Je ne veux pas être insultante, alors je me retiens. Mais les transports publics, c'est la pire des choses.
On vient donc d'entendre un petit montage de différents reportages qui se télescopent en mettant l'accent en particulier sur les premières phrases, les présentations. Mmh. Avenue des Trois Francs, au Colisée, à Avranches, on entend des cloches, on est tout de suite dans l'ambiance. Mmh. Dites-nous un petit peu, Déborah, comment justement on peut utiliser ce genre du reportage pour apprendre le français ou pour l'enseigner.
Donc, ce qui est vraiment intéressant avec le reportage, c'est qu'on sort du studio et on arrive sur le terrain. Donc ça, c'est dans une classe de français. Ça va toujours être un enrichissement de pouvoir faire écouter le monde directement de façon sonore.
Oui, ça n'a pas ce côté hygiénique du studio.
Exactement.
On a l'impression qu'on saute à pieds joints dans la vraie vie du pays dont on veut apprendre la langue.
Voilà, avec la difficulté du coup qui vont avec, c'est-à-dire on va entendre des voix avec des fonds sonores, du bruit, des témoignages qui sont pas toujours faciles à comprendre. Donc c'est pour ça que le reportage reste un format qu'on va aborder quand même à des niveaux avancés déjà dans la classe de français. Et puis c'est un format complet, complexe, parce qu'il y a des interviews, des informations qui sont apportées par le journaliste, tout ça se mélange, tout ça est organisé, très structuré. Donc en général, dans le reportage, on a un petit format, quelques minutes et beaucoup d'informations. Donc c'est pour ça que pour dénouer tout ça et le comprendre avec la classe, il faut déjà avoir un certain niveau.
Oui, donc ça s'adresse pas aux débutants. Je vous propose d'écouter un extrait de reportage justement qui est passé sur RFI.
Ma chérie pour une petite télé 29.
Dans le couloir de l'association, une cinquantaine de personnes attendent leur tour, un objet cassé dans les bras. Stéphane Gauchon gère ce Repair Café parisien.
On se rend bien compte aujourd'hui, et c'est ce qu'on porte aussi dans notre projet, c'est qu'on se rend bien compte que notre monde est fini, que les ressources sont finies et qu'on ne peut pas produire à l'infini des objets et qu'il faut bien à un moment penser peut-être à moins consommer, à essayer de garder le plus longtemps les objets, donc de prolonger leur durée de vie.
Donc là, il s'agit du début d'un reportage sur les Repair Café à Paris, les ateliers de réparation d'objets. Ça a été diffusé dans Reportage France. Enfin, ça fait partie des Reportages France de RFI. Et alors là, évidemment, avant de diffuser cet extrait-là dans une classe, on va déjà amener les élèves à réfléchir à ce que c'est que ces reportages. On va amener le thème, puisque sinon, une première écoute sans avoir préparé l'écoute, c'est assez difficile. Une fois qu'on les a amenés à réfléchir sur ce sujet, on va leur faire écouter cet extrait et en général, dès la première phrase dans un reportage, on a déjà l'essentiel des informations sur le sujet et l'angle. Et ça, c'est un des points importants quand on analyse un reportage avec la classe, c'est de voir quel angle a été choisi par le journaliste.
Alors ça, c'est un mot important dans le vocabulaire des journalistes, justement, l'angle. Le sujet, oui. On comprend tout de suite, c'est le thème, de quoi il s'agit. Mais l'angle... C'est un mot à la mode, hein. Il y a 40 ans, on parlait pas d'angle. Ça existait pourtant, mais c'était moins monté en épingle et le mot n'existait pas dans ce sens. Qu'est-ce qu'on appelle un angle journalistique ?
Ben, en fait, c'est vraiment comment est traité le sujet. Un même sujet va pouvoir en fait être traité avec différents angles. Alors bon, là, dans le cas du reportage qu'on vient d'écouter, l'angle il est assez évident puisque ça va être tourné vers l'utilité des Ripper Café. On va dire que c'est un angle positif, c'est-à-dire les avantages des Ripper Café. Enfin, la journaliste a choisi de vraiment se centrer sur les avantages, l'utilité de ces lieux. Mais elle aurait pu choisir de le raconter autrement.
C'est vrai, parce que les utilités peuvent être nombreuses. On peut mettre l'accent, par exemple, sur ce qu'on appelle la lutte contre l'obsolescence. C'est-à-dire que très souvent, il y a des objets qui sont fabriqués de telle manière qu'au bout de 2 ans, ils vont tomber en panne et qu'il faudra en acheter un autre. Peut-être un atelier de réparation permet de garder le même objet pendant 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Maintenant, ça peut être aussi un autre angle. On va dire, ça fait du travail pour des gens qui montent des répare-cafés ou des ripper-cafés qui sont eux-mêmes bricoleurs et qui en font un métier.
Donc, quand on a saisi quel est l'angle, en fait, on va comprendre qui parle, puisque finalement, le journaliste, une fois qu'il a choisi son angle, il va aller donner la parole. Alors ici, des bénévoles, des usagers de ces ripper-cafés qui vont tous, du coup, parler de ces avantages-là. Pourquoi c'est utile pour notre société, ce genre de lieu.
Et parfois, pour en savoir plus sur ces activités du journaliste, on s'adresse à un journaliste lui-même ou elle-même, qui est un peu prof de journalisme et qui va expliquer comment on s'y prend.
L'exercice qu'on donne en école de journalisme type, c'est d'aller dans un salon ou une foire. Vous avez le salon du chocolat. Ça paraît léger, ça paraît... Ah ouais, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait encore le énième... vous avez des spas, des salons de massage au chocolat aujourd'hui qui existent. Il n'y a pas que le chocolat à manger, etc. Ça a été déjà fait 15 000 fois, on en a marre. Et le travail d'un vrai journaliste, c'est de tourner autour du chocolat, de voir, même sur Google, etc., qu'est-ce qu'il existe, d'interroger ses proches, quitte à appeler même un grand pâtissier en disant, qu'est-ce qui change en 2017 que j'aurais pas pu en parler en 2016, mais qu'en 2017, je peux en parler.
On vient d'entendre la journaliste Marina Mielzarek, qui est journaliste à RFI, Reportage France, et qui donne quelques conseils aux futurs ou journalistes en herbe qui veulent apprendre à faire des reportages, puisque aussi l'idée dans notre collection Atelier Radio Reportage, c'est d'amener aussi dans la classe l'idée de fabriquer en groupe un reportage. Donc grâce à ces conseils, on peut un peu mieux comprendre justement, là dans cet exemple, le choix d'un angle.
Et tout ça, on le trouve où? Sur RFI Savoir?
Sur RFI Savoir, l'atelier radio, et là, c'est l'atelier reportage.
Merci beaucoup, Déborah Gros, pour ce Ma Parole. Merci à Claire Ducournau, qui était dans la première partie de La Danse des Mots, venue nous présenter les deux expositions sur AWA. La Danse des Mots étant une émission proposée par le réseau Canopée et par RFI, Raphaël Cousseau, Lucie Bouclou, Véronique Durand, Yvan Amar.
Sign up on the door. Don't disturb this crew.